Calade 100.9.
Bonsoir, merci de nous rejoindre sur Calade. Je suis heureux de vous accueillir en direct du hall du Théâtre de Villefranche ce soir pour le Festival des Nouvelles Voix en Beaujolais qui se tient jusqu'à demain. Et ce soir, le festival, eh bien, c'est au théâtre avec une belle affiche puisque à 19h, vous avez rendez-vous sur la scène du bar du théâtre avec Euth. Et puis ensuite, ce sera directement au théâtre avec Roman, November Ultra et Pierre Demar. Et comme chaque année, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau que nous avons installé ici au Théâtre de Villefranche deux des artistes de ce soir. Il y a d'abord Euth, bonsoir.
Bonsoir.
Et November Ultra.
Bonsoir.
Mais alors, on m'a dit Nova arrive, mais c'est November Ultra, c'est Nova, c'est qui alors ?
Nova, j'ai l'impression que j'ai un milliard de noms. C'est Nova, c'est mon surnom.
C'est bien d'avoir un milliard de noms. Comme ça, s'il y en a qui ne marchent plus, on en change.
Exactement.
Si vous voulez bien, on va commencer avec Euth parce que dans une poignée, oui, enfin 30 minutes, vous êtes sur scène. Donc, il faut qu'on vous laisse le temps de vous préparer. Et donc, on va commencer un peu à discuter ensemble. Mais alors, il ne faut vraiment pas que vous hésitiez. Si vous avez des questions, vous aussi, à poser, c'est une discussion entre gens de bonne compagnie, hein, on n'a pas question-réponse comme ça. Le but, c'est de se parler ensemble. Euth, on va faire connaissance un peu avec vous. Vous avez 23 ans.
Paraît-il, oui.
Voilà. Puis après, moi, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je ne vais pas faire genre, j'ai vu plein d'articles et puis vous dire vous êtes ça, puis vous faire dire oui, c'est vrai, j'ai fait ça. La seule chose que je vais commencer par dire, vous précisez que vous faites de la variété alternative. Et à partir de là, je vous laisse la parole pour nous expliquer ce que c'est de la variété alternative.
Ben, je crois qu'on doit se qualifier à chaque fois quand on fait de la musique. Faut toujours. Et toi, oui. Tu fais quoi comme musique ? Et j'avais pas envie, enfin, j'arrivais pas à me caser réellement. Donc, j'ai inventé cette case, entre guillemets, que j'espère sera reprise. Et la variété, en fait, a un côté... Enfin, moi, j'ai grandi, du coup, dans les années 2000 avec une variété très kitsch et très commerciale. Et pourtant, il y a quand même de la très, très bonne variété. Et je pense à des artistes comme Bachung, Christophe ou Daniel Dard qui m'inspirent beaucoup. Et j'avais envie de créer cette case variété, mais à la fois alternative, parce qu'on vient enrichir tout ça avec des sons qui peuvent être un peu plus new wave, électro, rock, voilà.
Vous faites une différence, vous, entre variété et chanson française ?
Non, je dirais que les deux sont à peu près pareils. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nova. Mais...
Moi, la variété, je l'associe à la pop. Je pense que c'est une façon française de dire que c'est de la pop. Donc, je trouve que cette case que tu t'es créée pour toi est merveilleuse.
C'est bien, comme ça, on se crée des noms, on se crée des cases. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même.
Absolument.
J'aimerais maintenant, Euth, qu'on aborde un peu votre parcours artistique. Et par artistique, j'entends pas simplement le parcours musical, mais parcours artistique parce que vous êtes, qu'on peut qualifier peut-être un artiste total. Vous êtes passé par différentes formes d'expression, différents arts qui se retrouvent d'ailleurs sur scène. Quel a été votre parcours et à quel moment l'expression artistique est rentrée dans votre vie ?
Faut savoir que je viens de Picardie, dans un tout petit village de 250 habitants. Et la culture qu'il y avait là-bas, c'était de la culture des chants, mais pas la culture intellectuelle. Et je pense qu'on vient toujours combler ce dont on manque. Donc moi, c'était la culture, en l'occurrence. Donc j'ai cherché tout d'abord. Et puis à côté de chez moi, il y avait une école de théâtre. Donc j'étais dans le village voisin, au début, faire du théâtre pendant quelques années. Et puis ensuite, dans la ville d'à côté, il y avait du cirque. Entre deux, j'ai fait un peu de danse aussi. Mais la musique, c'est ce que je voulais faire depuis le début. Sauf qu'encore une fois, quand on vient d'un recoin comme ça de la France, dire qu'on veut faire de la musique, ça peut paraître très inaccessible. Et du coup, ça a été un chemin comme ça que j'ai emprunté au fur et à mesure et jusqu'au temps, au moment d'oser pouvoir en faire, quoi.
Chaque forme d'expression a été une marche pour vous autoriser à aller jusqu'à la musique ?
Je pense, oui. Et puis aussi pour me détacher de ça au maximum, enfin, de cette emprise un peu de base et essayer de découvrir tous les mondes, quoi.
Et aujourd'hui, par exemple, l'art circassien, comment il vient infuser votre travail et...
Je pense qu'il y a un réel travail autour du corps ou de l'impulsion du corps. J'ai l'impression que quand on danse, c'est le seul moment où on réfléchit le moins, peut-être, parce que c'est très pulsionnel. Et je dirais que le cirque vient aussi s'imprégner là-dedans, quoi, dans la gestuelle et dans comment je m'illustre sur scène.
Vous en avez fait à quel âge du cirque ?
J'en ai fait pendant 6 ans. J'ai même fait un bac spécialisé cirque. Donc c'était collège-lycée, quoi.
Un bac spécialisé cirque, c'est pas là où on fait le bazar au lycée, hein, ça n'a rien à voir.
Non, rien, absolument pas. Élève modèle, évidemment.
La musique, elle est rentrée par quelle porte dans la vie de Hutz ?
Par la radio, je crois. Je sais pas, et toi ?
Moi, par mon grand-père, donc vraiment, tu vois, c'est des formes très, très différentes pour tout le monde. Mais je trouve ça assez fascinant, le côté cirque aussi, et le côté de l'aspect viscéral du corps. Je trouve que ça me rappelle beaucoup Aloïs Sauvage,
ouais.
Que j'adore, que je trouve qu'il est une artiste incroyable. J'ai très, très hâte de te voir en concert et de t'écouter parce que je ne te connaissais pas avant. Et je trouve qu'il y a beaucoup de vie dans le fait de voir ce genre d'artiste sur scène.
On a eu la chance, d'ailleurs, d'avoir une discussion avec elle ici au même endroit,
ben,
il
voilà.
y a quelques années. Et alors, la musique, elle est rentrée par la radio. Ça fait plaisir, parce que là, on a la radio en plus.
Big up.
Voilà.
Et la pratique musicale, elle a commencé comment ?
À 17 ans, j'ai passé mon BAFA, j'ai mon premier salaire et je me suis acheté une guitare. Je chantais. Avant, j'avais monté un club glee, genre au collège et tout.
Ah, carrément.
Ouais.
Et ça avait marché, le club glee ?
Ah, mais ça avait grave marché, parce qu'en fait, en plus, on pouvait passer prio à la cantine grâce à ça. Donc, tout le monde voulait venir au club glee, quoi.
C'était la classe, c'était pas comme dans la série Glee où là...
Non, mais j'aimais bien juste le fait de pouvoir chanter avec mes amis comme ça. C'était très simple, au final il n'y avait aucune organisation, mais c'était juste fait avec les viscères, les tripes, le cœur, je sais pas, mais c'était beau, quoi.
Et à quel moment vous vous êtes dit, Eut, oula, ça commence à devenir sérieux cette histoire de musique, ça va peut-être être un chemin à emprunter plus sérieusement?
Bah, je crois que c'est une voix qui m'a jamais quittée dans ma tête. Et puis il y a un moment où je sors de mes études d'éducateur spécialisé. Et puis,
ça, c'était le plan B, alors, éducation spécialisée.
C'était même pas un plan B, c'était un parcours. Je pense que ça m'a beaucoup servi là, pour créer mon album et tout. Parce qu'en venant aider les autres à se réparer, on vient aussi se réparer soi-même.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Là, c'est la question qui est en train de germer dans ma tête. On ne devient pas éducateur spécialisé par hasard.
Bah non, évidemment. Une mère assistante sociale, il y avait déjà tout des... Enfin bon, et puis plein de carences à soigner, quoi. Mais du coup, après ce burn-out, je me dis, OK, là, j'ai droit à 6 mois de Pôle emploi. En 6 mois, je vais trouver un label, sortir des chansons et faire de la musique.
Vous étiez sûr que ça allait se passer comme ça ?
C'était le tout pour le tout. Mais 2 mois après, c'était fait, donc on était contents.
Et après, cette guitare, alors, qui a été achetée à 17 ans, grâce à la première paye et au BAFA, comment on apprend ? Comment...
Il y a des plateformes aujourd'hui géniales comme YouTube. Du coup, j'ai mis des tutos sur YouTube et j'ai commencé à apprendre avec des musiques qui me plaisaient. Enfin, je voulais pas prendre des cours de solfège et tout parce que c'était trop inaccessible un peu. Enfin, ça me paraissait trop loin. Mais du coup, j'adorais Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door. Du coup, j'ai mis cette musique sur YouTube et j'ai appris comme ça. Puis une fois qu'on sait où est le do, le sol, sur les autres musiques, ça revient souvent dans la pop. Donc voilà.
C'est vrai. C'est vrai qu'il y a souvent des accords qu'on retrouve. Et ensuite, vous êtes intéressé à d'autres instruments ? Il y a eu d'autres...
J'ai laissé la guitare. Aujourd'hui, je fais beaucoup plus de piano, parce qu'il y a plus de touches, je trouve.
Pareil, une approche en autodidacte ?
Ouais. Non, mais la guitare, en fait, ça me fait mal aux doigts. Et du coup, je trouvais que le piano, ça faisait moins mal aux doigts. Et ça faisait du bien, surtout à mon cœur. Donc voilà.
On vous retrouve à 19h pour le concert. D'ailleurs, on dit à nos auditrices et à nos auditeurs qu'ils peuvent venir. Ils peuvent venir.
Mais venez.
Au théâtre venez.
Pour vous découvrir sur scène. Qu'est-ce que vous proposez sur ce set
aujourd'hui?
Oui.
Je dirais un showcase, un mini-concert. On va faire du mieux avec des armes et des paillettes. C'est le nom de mon album qui est sorti aujourd'hui. C'est l'instant promo comme ça. Et
bravo,
voilà.
Félicitations. Hein. C'est quelque chose de sortir un album.
Ben oui.
Ouais.
Je suis
des armes et des paillettes.
Armes et paillettes. Et non, beaucoup de liberté. Je crois que je fais de la musique pour me libérer et j'aime bien pouvoir libérer les gens aussi. Donc je dirais, venez, on fait une séance de libération tous ensemble. Voilà.
Merci, Hutz.
Merci.
Parce que 10 minutes sont déjà passées. C'est passé vraiment vite.
Je m'envole et je reviens.
À tout à l'heure.
Merci.
Merci beaucoup. On en profite pour accueillir avec nous Amélie Casasol. Bonsoir, directrice du Théâtre de Villefranche.
Bonsoir.
Ça va bien ?
Oui, très bien.
C'est un festival pluvieux aujourd'hui.
Oui, bon, on a eu beau temps jusqu'à présent donc, et tous les concerts sont dans la salle, donc tout va bien se passer.
Un petit mot des artistes qui se produisent ce soir, parce qu'il y a toujours un peu un fil rouge chaque soirée. Alors ce soir, c'est...
Bien, ce soir, oui, on est très contents après avoir eu une soirée chanson française hier avec Barbara Pravi et Emma Peters. Ce soir, on est très heureux d'accueillir voilà, des artistes à la fois qui émergent tout juste comme Euth que voilà, on vient d'entendre et qui est vraiment quelqu'un qu'on aime beaucoup, qu'on est très heureux d'accueillir ce soir et qui est vraiment plein de promesses. Et puis des artistes déjà confirmés, même très jeunes, mais déjà confirmés dans leur jeunesse, comme November Ultra. Et c'est vraiment un honneur de t'accueillir ce soir, parce qu'on aime vraiment, vraiment toute l'équipe et très fan, et le public aussi. Et c'est super d'avoir voilà, des jeunes avec des univers très, très différents. Mais c'est aussi ça, l'ADN de ce festival, c'est la diversité de la nouvelle scène, de la nouvelle scène des musiques actuelles.
November Ultra. Vous, c'était quoi votre plan B ?
C'était la musique. Mon plan B, c'était de faire du sous-titrage.
Du sous-titrage ?
Ouais, j'ai un master 2 de traduction audiovisuelle. Et je faisais du sous-titrage pour les sourds et malentendants.
D'accord.
Voilà. Et je me dis qu'il y a une réalité parallèle dans laquelle c'est encore mon job. J'ai adoré faire ça, mais c'est drôle, j'ai été très émue d'entendre Euth. Je trouvais les questions que vous avez posées et sa façon de répondre, ça m'a donné envie justement d'aller le voir là à 19h. Ça m'a donné envie d'aller écouter sa musique, son album. Et en fait, ça m'a parlé aussi dans la résonance quand il dit que finalement aider les autres, c'est s'aider soi aussi. Et je pense que faire de la musique, c'est se penser soi-même, c'est-à-dire réussir à se faire du bien ou en tout cas à comprendre ce qu'on ressent, à démêler des nœuds. Et en fait, c'est, je trouve magique les concerts pour ça parce qu'on se rend compte que tous les soirs, c'est une connexion à l'autre, que tous les concerts ne se ressemblent pas. Et qu'effectivement, en fait, on est tous très heureux et je trouve qu'on se soigne un peu tous via la musique et les concerts.
Ce que vous abordez là, c'est la connexion.
La connexion.
Forcément, le public est différent chaque soir. Et vous la vivez comment, cette connexion ? Vous en prenez vraiment conscience, vous la conscientisez chaque soir, mais avec le public qui serait comme une forme composée de plein de personnes, mais une connexion avec juste le public. Vous avez l'impression de vous connecter presque à chaque personne qui vient vous écouter.
Je pense qu'on se connecte tous à quelque chose. J'ai l'impression qu'on est tous d'un côté de nos ponts personnels et on décide tous de se retrouver sur une petite île. Et de se connecter les uns aux autres. Je pense pas que ce soit que moi, je pense que c'est les personnes entre elles aussi. Parfois, il y a des gens qui se connaissent pas, qui viennent au concert et qui se retrouvent à pleurer côte à côte et qui se regardent et qui sourient parce qu'ils ressentent les mêmes émotions. Et je trouve que c'est ça, c'est au-delà de la personne qui est sur scène. Je pense que c'est un moment qu'on vit tous ensemble.
Et qu'est-ce qui vous traverse aujourd'hui, là ? Ce jeudi soir ? Ce vendredi soir.
Ouais, absolument. On ne sait pas, on ne sait plus. Ben moi, par exemple, j'adore les concerts sous la pluie. Moi, je dis beaucoup concert pluvieux, concert heureux. Donc, je pense que ce sera un concert très heureux ce soir. J'ai hâte.
Je ressens là, il y a une petite ambiance feutrée, là, oui, super agréable.
Je sens que je suis la personne qui parle le plus fort ici. J'ai l'impression que mon rire est un peu gronde comme un petit tonnerre. Mais j'ai très, très hâte. Au-delà de ça, c'est que moi, ce que j'adore dans les festivals comme ça aussi, c'est la possibilité non seulement de faire un concert, mais de s'asseoir et de pouvoir voir les autres.
Et de rencontrer aussi les gens.
De rencontrer les gens, mais ça, c'est ma vie. Hein.
Les gens ont des choses à dire souvent, non ? Quand ils écoutent la musique.
Ouais, ouais.
Nous, on a la chance, ici, on a un micro.
On se parle.
On écoute la musique, on parle, on dit, tiens, ça, j'ai entendu ça, j'ai ressenti ça.
C'est le deuxième moment le plus précieux, je pense, c'est rencontrer les gens après les concerts.
Vous avez un album aussi qui est sorti, parce que vous avez dit c'est précieux de sortir un album. Ouais. Le vôtre s'appelle. Alors moi, je ne suis pas super bon en anglais. Hein,
Bedroom Walls.
Ouais, alors je ne l'aurais pas fait aussi bien.
C'est-à-dire les murs de ma chambre.
J'aurais mis un bon accent français dessus. Parce que cet album, il a été...
beaucoup composé.
Composé.
Beaucoup réalisé, enregistré dans ma chambre, de manière un peu plus large aussi dans le salon. Ça a été des endroits pour moi et je pense que je faisais quelque chose d'assez inconfortable, qui était de parler de mes sentiments, de ce qui se passait dans ma tête. Et j'avais besoin d'être dans l'endroit le plus confortable pour moi au monde, qui était chez moi. Et de travailler aussi avec des instruments qui deviennent presque des êtres vivants, et qui étaient la guitare sur laquelle je joue depuis que je suis enfant, le piano sur lequel je joue depuis que je suis enfant. Et je voulais qu'il y ait ça dans l'album. Enfin, je ne sais pas si je voulais, mais en tout cas, c'est ce que l'album est devenu.
Et du coup, vous aussi, vous êtes créé une case comme Euth.
Oui, où on me l'a créé, parce que la bedroom pop, c'est vrai qu'on qualifie beaucoup ma musique de bedroom pop, donc de pop de chambre. Ce que j'aime beaucoup, je trouve qu'il y a la musique de chambre qui est classique, très classique, avec des cordes et tout, et moi je fais de la pop de chambre quelque part.
Et puis dans cet album, il y a une ambiance particulière. Je ne sais pas si vos plus jeunes auditeurs ou auditrices ont eu la même réaction que j'ai pu avoir quand j'ai écouté. Alors je me souviens plus sur exactement quel morceau c'était, mais à la fin on entend juste une cassette qui est installée dans, comme une cassette qu'on retourne, et tout de suite là ça a fait une réminiscence. Il y avait longtemps que j'avais pas entendu ce son.
C'est vrai.
Ouais. Et ça crée en plus des images comme ça mentales presque.
Je pense que c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup dans les albums que j'ai pu écouter. Et mon nom, par exemple, November Ultra, c'est parce que je suis née en novembre et que j'adore une mixtape qui s'appelle Nosage Ultra, d'un artiste qui s'appelle Frank Ocean. Et Frank Ocean, sur cette mixtape, justement, il y a beaucoup de bruit de cassette, beaucoup de bruit de caméscope. Et je trouve que ça participe à la façon d'écouter un album. C'est-à-dire que ça crée comme un petit film dans nos têtes. On a l'impression d'être en immersion. On
se connecte directement à l'imagination.
Ouais. Et moi, j'avais très envie que les gens, parce qu'il y a quand même des berceuses sur cet album. Ça a été toujours ma volonté. J'ai beaucoup mis de voix à gauche, beaucoup à droite. J'avais cette volonté que les personnes, presque, si elles ferment les yeux, elles ont l'impression que je suis présente et que je suis là pour leur chanter cette berceuse. Et c'est ça qui était le plus important pour moi, c'est à quel point j'arrive à créer de l'intimité sur quelque chose qui finalement va être une activité quand même assez solitaire.
Sur cet album, on y entend trois langues.
Oui.
Le français, l'anglais, avec un accent parfait.
Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Ça fera plaisir à ma mère.
Et on y entend aussi de l'espagnol.
Oui, qui est la langue maternelle pour le coup.
C'est vraiment votre langue maternelle, c'est-à-dire c'est votre premier bain sonore, l'espagnol ?
Non, c'est le français. C'est ma langue natale. Je suis née en France. Mais ma langue maternelle, donc la langue de ma mère, c'est l'espagnol. Donc j'ai grandi, j'ai appris le français et l'espagnol à peu près au même moment.
D'accord. Vous avez baigné dans les deux langues ?
Oui, j'ai baigné très vite, j'ai parlé les deux. Et en fait, j'ai commencé à composer et à écrire en anglais parce que je ne voulais pas que ma mère comprenne justement ce que je disais. Donc voilà, maintenant elle s'est mise à Duolingo, à des applications pour apprendre l'anglais. Donc elle comprend très bien ce que je dis.
Et ça vous gêne ?
C'est pas évident, mais je pense que comme je vois une psy, ça va. J'arrive à y faire face. Non, je pense qu'en vrai, ça nous a beaucoup rapprochés. Donc ça, c'est très beau aussi.
On retrouve une partie en espagnol dans le morceau Soft and Tender.
Oui.
Et alors, il y a quelque chose, moi, qui m'a percuté quand j'ai écouté ce morceau, c'est que tout à coup votre voix qui est si riche en harmonique, qui est si posée comme ça quand vous chantez en anglais, la voilà devenue fragile et presque mal assurée en espagnol.
Vous avez trouvé qu'elle était mal assurée en espagnol ?
En tout cas, il y avait un jeu
de... Je la trouve mal assurée en français.
Il y avait un petit déséquilibre dans l'espagnol, comme ça... Presque comme si on savait que parfois quand ça arrive avec de jeunes chanteurs ou de jeunes chanteuses, quand ils ont un peu le trac et qu'ils commencent à chanter, il y a ce petit pincement là, on sent, et qui donne presque un petit déséquilibre.
Oui, c'est marrant.
Alors peut-être il n'y a que moi qui ai entendu ça.
En fait, c'est une façon de chanter qui est très liée au flamenco et à la copla. Mais qui, je trouve que au contraire, après, on en arrive au même endroit, donc c'est votre ressenti et absolument légitime. Mais justement, je trouve que ce que j'aime dans le fait de chanter dans différentes langues, c'est que ça va chercher différentes voix, différentes façons de faire face à des émotions aussi. Donc, j'adore chanter en espagnol.
Je l'ai dit tout à l'heure, cette voix, elle est pleine, elle est riche. Vous l'avez travaillée comment ?
J'ai travaillé en chantant. J'ai fait le conservatoire quand même pendant 11 ans, mais j'ai fait du piano. J'étais médiocre pianiste, assez pour pouvoir m'accompagner et composer désormais. Mais j'ai surtout, ma voix, j'ai beaucoup chanté, j'ai voulu chanter comme pendant très longtemps. donc comme Céline Dion, comme Mariah Carey et tout. Et puis à un moment, j'ai dit, bah, en fait, c'est pas des endroits de ma voix qui sont très agréables, j'arrête pas de me la casser. Et du coup, je suis allée chercher surtout les notes dans lesquelles moi, je me sentais bien. Et souvent, c'est des notes justement plus rondes, plus graves dans les tonalités. Et à force de les chanter, je pense que bah, ma voix s'est musclée, ma voix s'est développée.
Je suis super surprise de ce que vous êtes en train de me dire.
C'est vrai.
Parce qu'effectivement, on entend quand vous allez dans les graves ou dans les médiums, cette voix-là, elle est pleine d'harmonie, elle est posée, elle est ample. Et ce côté berceuse, effectivement, elle est enveloppante. Et on sent en plus que c'est votre intention derrière. Et pourtant, très souvent, je vous sens en train d'aller vous jouer et friser avec ce qu'on appelle le passage entre la voix de tête et la voix de poitrine, et que vous jouez un peu avec cette voix mixte qui existe entre ces deux voix. Et je me dis, tiens, elle va tester des limites de la voix, elle vient chercher des choses alors qu'elle a tout ce qu'il faut dans les médiums et dans les graves, et ça m'a interrogé.
Ben, c'est vraiment, je pense que ce qui est beau, c'est d'avoir tous ces outils et de pouvoir aller chercher. Et je pense que quand je suis dans les aigus, ça apporte une autre intention et ça apporte beaucoup plus de fragilité aussi. Et que c'est ça qui est beau quand on écoute la musique, que ce soit la mienne ou d'autres artistes. C'est ces dynamiques-là, c'est ces petites vallées, ces montagnes et ces petits ruisseaux, quoi. C'est vraiment ça, je pense, la beauté de faire de la musique, c'est que tout est possible là-dedans.
Il y a beaucoup de vocalistes dans vos morceaux, de notes qui traînent, des choses. C'est quelque chose que vous pratiquez même quand vous n'êtes pas forcément en composition, mais est-ce que vous avez souvent comme ça la voix qui traîne, la voix qui s'amuse à tout moment de la journée ?
Moi, je suis en train de vivre ma vie rêvée. C'est-à-dire que vraiment, il y a des vidéos de moi à 3 ans où je supplie mes parents de me laisser chanter, mais il est 20h et ils veulent juste que je me taise.
C'était l'heure du dodo.
Voilà, c'est ça, c'est vraiment. Mais vraiment, il y a une vidéo où ils me disent bah, tu pourras chanter demain. Et moi, je suis là, je ne veux pas chanter demain, je veux chanter jusqu'à que je m'endorme. Et demain, je recommencerai. Je pense que je suis devenue compositrice, je suis devenue musicienne pour pouvoir assouvir ma passion et mon besoin de chanter. Donc, effectivement, même quand je ne compose pas, même quand je ne suis pas sur scène, en fait, je chante, je ne fais que chanter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, je sais plus quelle était la question.
Je sais même pas si on a vu.
Désolée, je sais pas. En tout cas, j'adore chanter. Donc, voilà, si vous venez, sachez que ce sera vraiment premier degré, que je serai incroyablement heureuse de chanter.
Vous avez fait l'expérience d'être membre d'un groupe.
Oui.
Et puis là, vous faites l'expérience d'un projet solo. Qu'est-ce que ça change pour vous ?
Ça change plein de choses et en même temps rien. C'est-à-dire que la beauté d'être dans un groupe, c'est que les choix se font à plusieurs. Donc c'est moins effrayant de faire ses premières fois, et ce qui a été mon cas. Avec le groupe, j'ai tout appris. C'était mes premières fois à composer, mes premières fois en studio, mes premières fois dans tout ça. Et d'être avec les garçons de mon groupe, c'était moins effrayant. Et une fois qu'on est seul, il y a une liberté incroyable aussi, qui est de... tous les choix sont les miens, donc je peux faire tout ce que je veux. Et la seule voix qui compte, VOIE, VOIX, c'est la mienne. C'est celle que moi, j'aurais choisi de prendre. Et donc, c'est ça qui change totalement. Mais j'adore être seule, j'ai adoré être en groupe aussi.
Est-ce qu'il il a fallu de vous dépouiller de certaines choses pour pouvoir basculer dans un projet en solo ?
Il a fallu que je laisse le temps à la musique d'émerger de moi, je pense. Il a fallu que j'apprenne à utiliser l'ordinateur parce que j'avais envie de savoir composer sur l'ordi, de produire.
C'est presque indispensable aujourd'hui. Hein.
Je pense que ça l'est, et je pense qu'aussi, en tant que femme dans l'industrie, parfois on se dit qu'on a absolument besoin d'un homme pour le faire avec nous, et que de plus en plus, en fait, on se rend compte que c'est juste qu'il faut qu'on se laisse le temps d'être débutant. Et moi, c'est un truc sur lequel je milite beaucoup. J'ai commencé sur scène, je ne me considérais pas ni guitariste ni pianiste, et donc je faisais un peu des pains. Et puis, en fait, plus j'ai fait des concerts, et plus je suis devenue meilleure dans ma façon de jouer de la guitare. Et c'est juste ça, je trouve que parfois, on ne se laisse pas le temps d'être débutant.
C'est vrai que c'est important.
Ça l'est, il faut passer par quelque chose, hein, par des étapes.
Est-ce qu'il y a quelque chose là, en ce moment dans lequel vous êtes débutante ? Un nouvel instrument
Non, j'aimerais bien me mettre au crochet.
Le crochet.
Aucun rapport.
Ah oui, ça n'a aucun rapport.
Voilà, c'est un nouvel hobby. J'aimerais bien crocheter.
Des choses en particulier ?
Des bonnets. Enfin, vraiment, après, je pense que je vais vraiment embêter. À un moment, j'ai eu une passion tricot. Et du coup, je savais faire que des écharpes. et j'en offrais à tout le monde. Et à un moment, on m'a dit, écoute, on n'a pas assez froid, en fait, on a déjà assez d'écharpes. Donc là, les crochets, je pense que ma famille et mes amis qui vont écouter ça vont commencer à avoir très peur et vont se dire, oh là là, elle va nous faire des bonnets.
Et en même temps, ce sont des activités qui permettent de s'apaiser aussi à un moment, de se recentrer.
Oui, je pense que moi, j'adorerais savoir dessiner, par exemple. Mmh. J'aimerais être pyjama. La chanteuse, le groupe Pyjama, parce que je trouve qu'elle dessine incroyablement bien et j'adorerais avoir son talent, parce que j'ai l'impression que ce qu'on a quand on dessine, on l'a pas quand on chante, par exemple. C'est pas les mêmes activités. Et puis bon, bah, j'aimerais bien être comme Euth et Aloïse et savoir faire des acrobaties. Mais je pense que ça, c'est pas quelque chose que je peux prendre en regardant juste YouTube.
Ah oui, il y a des tutos parfois, je pense que pour trouver
l'équilibre... Bah, le crochet, je pense que c'est plus facile à apprendre toute seule que faire de l'acrobatie. Je pense que c'est pas pour maintenant.
Est-ce que vous êtes essayé un peu aussi sur scène aux reprises ou de réinterpréter?
J'en fais pas sur scène. J'en fais une sur scène parce qu'elle est très liée à mon grand-père et que donc c'est grâce à mon grand-père que je fais de la musique, parce que c'est ma relation à lui. C'est lui qui m'a appris ma première chanson. Tout ça. Après, j'en fais beaucoup quand je suis chez moi parce que j'adore chanter les autres. Je trouve que c'est se rendre compte aussi de comment une chanson est fabriquée, de comment les mots sonnent sous la langue, de voir comment c'est composé. Et en fait, je trouve ça merveilleux. C'est comme porter une belle robe faite par un bon designer et voir un peu comment... un peu les secrets là-dedans. Donc j'adore, j'aime les deux.
Cette question sur les reprises, elle m'est venue en écoutant votre album.
Oui.
Et avec la chanson « The End ».
Oui.
Il y a un moment, je ne sais pas pourquoi, cette chanson m'a fait penser, vous savez, à cette... une chanson maintenant qui est devenue, qui est à la fois magnifique, mais quand même un peu ringarde, de Charles Aznavour, She. Alors là, il faut vraiment faire un bel accent en français.
Elle est incroyable, voilà. Cette chanson.
Et je me suis dit, cette chanson, elle devrait être magnifique, mais là, vous en avez fait vous avez répondu à ma question, vous en avez fait un petit morceau, et j'étais sûr qu'elle serait magnifique dans votre voix.
C'est gentil, bah, peut-être que j'apprendrai les accords. Parce que j'adore Charles Aznavour. J'adore Charles Aznavour. Et Dalida aussi, ma passion. Bref, je suis là en train de citer des gens. Faudra les inviter aux nouvelles voix du paradis.
Vous en avez déjà parlé là, il y a quelques instants. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Comment la musique, elle est rentrée dans votre vie? Par quelle fenêtre ou par quelle porte? Vous avez répondu, c'est votre grand-père.
Mon grand-père, c'est un passionné de musique. Il habite en Espagne. J'ai passé tous mes étés avec lui. Et en fait, il écoute de la musique et surtout, il regarde beaucoup de comédies musicales. Et donc, mon rapport à ça, c'est vraiment les comédies musicales comme La Mélodie du Bonheur, qui est mon film préféré de tous les temps, Mary Poppins. Donc, c'est très spécifique aux années 60 et je pense que ça se retrouve un peu dans la façon aussi dont je compose ce genre de voix très classique de ce genre de film. Mais voilà, j'ai beaucoup de chance. Je trouve qu'on... Souvent, les grands-parents, c'est chouette parce qu'ils ils veulent juste faire de la musique avec nous et nous acheter des glaces.
Et du coup, ce grand-père, c'était simplement pour écouter avec lui ou c'était aussi un grand-père qui chantait des berceuses qui,
C'est plus ma grand-mère qui me chantait des berceuses pour m'endormir, des vieilles chansons espagnoles. Et mon grand-père, c'était plus parler de CD, parler de qui avait... Enfin, aussi, il avait un gros côté à vouloir savoir qui avait composé quoi. Il avait un truc de pédagogie qui était très, très, très fort avec les films ou avec les gens, les compositeurs, les chanteurs, les chanteuses. Donc j'ai eu un peu la chance d'avoir les deux et c'est pour ça que les deux se retrouvent sur mon album. C'est les seules voix qu'on entend qui sont pas les miennes dans mon album, c'est mes grands-parents qu'on entend justement à la fin de la chanson Nostalgia Ultra.
Et vous avez pu faire participer vos grands-parents à cet album, mais est-ce que quand il y a la réunion de famille, il y a aussi des classiques de la famille de November Ultra et des choses qu'on chante ensemble?
Il y a deux chansons, il y a Maria de la O qui est une chanson justement que je fais en reprise sur scène. Et après il y a Age Advice de La Mélodie du Bonheur, où en fait il y a une blague où la famille commence à chanter, le père chante pour la première fois et il y a la baronesse qui fait cette blague qui dit si j'avais su j'aurais ramené mon harmonica. Et du coup il y a toujours un de nous qui chante et après il y a toujours une personne qui va faire la blague et dit ah si tu me l'avais dit j'aurais ramené mon harmonica. Voilà.
C'est la blague obligatoire.
C'est la blague.
Dans... ce parcours musical très académique, on sait quand on fait le conservatoire on est très bon très bonne pour lire une partition pour connecter le jeu à la partition et souvent il manque cette partie intuitive et quand on se retrouve les premières fois où ça fait mal c'est quand on se retrouve à devoir faire le bœuf par exemple. Comment vous êtes aussi allé de ce côté-là et comment vous avez fait aussi un apprentissage intuitif de la musique ?
En partant du conservatoire. C'est-à-dire que j'ai raté mon dernier examen à 16 ans. J'étais pas, je faisais pas partie du top, du haut du panier du conservatoire. Et en fait, je pense que j'ai appris à avoir confiance en mes émotions et mon intuition en désapprenant ce que j'avais appris au conservatoire. J'ai adoré le conservatoire, j'ai des bases incroyables grâce au conservatoire. Mais je pense que comme toute formation, à un moment, pour trouver son endroit à soi, il faut réussir à désapprendre et à faire ses choix critiques, ses choix à soi, quoi. Et donc, c'est ce qui s'est passé, mais ça a mis du temps.
Et chez vous, on retrouve quel instrument, alors ? Une guitare, vous l'avez dit.
Oui, une guitare classique, mais vraiment classique qu'on achète pour les enfants, donc assez petite. Et un piano. Voilà, un piano que j'ai eu à 10 ans.
Et un ukulélé ?
J'ai pas du ukulélé. Non. Non, mais la guitare classique, quand on la met un peu dans les aigus, elle ressemble à un ukulélé.
Ah, alors moi, j'ai vraiment cru à un moment qu'il y avait un arpège de ukulélé, et pas du tout. C'est cette fameuse
guitare. C'est cette fameuse guitare avec un capot d'astre quand on change. Donc voilà, c'est mes deux instruments fétiches.
Et il y a d'autres petits instruments comme ça qui traînent, qui servent parfois à faire presque...
Et bah, étonnamment, non. Je pense que le plus gros instrument que j'utilise, en vrai, c'est ma voix, et c'est ce que j'aime. C'est-à-dire à quel point je peux la tordre aussi, à quel point on peut en faire des voix de monstres. Des voix d'opéra et tout ça quoi. Donc je dirais plutôt mon piano, ma guitare et ma voix.
Cet album, Bedroom Walls, il est né comment ? Alors on sait où il est né, le lieu, mais il est né comment ? À quel moment vous avez dit là, je suis prête à lancer le chantier d'un album ? Parce que c'est un gros chantier d'un album.
Je pense qu'il est né quand j'ai écrit le premier morceau de l'album qui s'appelle Over and Over and Over. Et justement, en parlant de chantier, il y a mon voisin qui est en train de faire des travaux. Donc on l'entend taper sur le mur en train de refaire son appart. Et donc il est né en plein chantier. Puis je pense que j'ai compris que j'avais quelque chose, que je tenais quelque chose quand j'ai fait Soft and Tender.
Soft and Tender.
Oui.
C'est un beau programme, ça, hein, de la douceur et de la tendresse. Il en manque un peu parfois.
Oui.
Dans les relations, dans...
Mais je pense qu'on en met de plus en plus. J'ai l'impression qu'on a envie, tous et toutes.
November Ultra, sur scène, qu'est-ce qu'on va voir ? Qu'est-ce qu'on va y retrouver ? Quelle est l'ambiance ? Quelle est la formation ?
Eh ben, on va retrouver des berceuses. Et j'espère que ce sera un concert doux et tendre. En tout cas, c'est mon souhait le plus fort. Et je crois qu'il y a Euth qui va commencer, non ?
C'est ce que je me retournais pour regarder, effectivement. On va baisser un peu la voix. Euth va bientôt monter sur scène et c'est le moment de le présenter. Pour moi, c'est le moment de vous dire merci pour cet échange qui était fort agréable.
Merci.
Je vous souhaite un très bon concert ce soir aux Nouvelles Voix.
Merci, merci.
Et surtout une très bonne continuation.
Merci, c'est adorable.
Au revoir.
Au revoir.
Venez vers la scène. On est très heureux ce soir d'accueillir Euth et son groupe pour ouvrir cette... deuxième soirée. On vous attend aussi nombreux demain. Vous savez qu'on a toujours l'habitude de ces rendez-vous au café. Une petite façon un peu de se chauffer, de se mettre dans l'ambiance de la soirée avec encore trois artistes après qui se produiront sur scène. Donc, eh bien, écoutez, profitez de cette soirée et on se retrouve juste après dans la salle. Bon concert.
Cala 100.9.
Nous sommes en direct du Festival des Nouvelles Voix en Beaujolais, un festival qui se tient jusqu'à demain, au Théâtre de Villefranche. Alors il y a eu d'autres lieux, mais en tout cas les derniers rendez-vous, c'est au Théâtre de Villefranche. Et dans quelques instants, on va commencer le concert de Euth en direct du bar du Théâtre de Villefranche, enfin du café du Théâtre de Villefranche. Euth, un artiste qui vient de Picardie, un jeune artiste de 23 ans qui fait de la variété alternative. C'est à découvrir tout de suite sur Calade. Restez à l'écoute.
Tu vois les carences, les névroses. Voilà les armes. Et la candeur, les rêves. C'est les paillettes. Mes larmes coulent comme des paillettes qui brillent de mille facettes. Dis-moi si tu t'y vois ou pas. à l'amour comme à la fête. Dansons ensemble nos défaites. Crois-moi, qui nous l'emportera? Qui nous l'emportera? Qui nous l'emportera? Ah, dis-tu t'y vois ou pas? Mes armes sont comme des paillettes qui brillent les mille défaites. Dis-moi si tu y crois ou pas. Le temps, la boule, la facette qui ne tourne plus que dans ma tête. Cette fois, si elle m'emportera, si j'y tombe avec toi, si tu tombes dans mes bras. Ah, dis-tu y viens ou pas? Mes larmes sont comme des paillettes qui m'irradient en poète. Dis-moi si tu y crois ou pas. Devant la mort, la fête n'est triste que si l'on s'arrête. Crois-moi, si on ne danse pas, qui nous l'emportera? Qui nous l'emportera? Ah, dis-tu y crois ou pas? Mon âme a tant de facettes qui me semblent si imparfaites. Et toi, tu l'aimais en émoi. De temps la ville, la vedette qui ne tourne plus que dans ma tête. Cette fois, si elle m'emportera, si j'y tombe avec toi, si tu tombes dans mes bras. Ah, dis-tu y viens ou pas? Dis-tu y viens ou pas? Bonsoir.
Vibration Calade. Amour, la mort m'amuse, j'adore. 100.9 Calade.
Bonsoir Villefranche, je m'appelle Eut, pour ceux qui ne me connaissent pas, soit 99% du monde ici. J'ai eu la chance d'être accueilli en résidence pour créer un live par le théâtre dans le cadre de Nouvelles Voix et je voulais juste les remercier pour ça. Aujourd'hui, buvez, c'est important.
C'était Eut en direct du théâtre de Villefranche dans le cadre du festival des Nouvelles Voix en Beaujolais. Le concert va continuer jusqu'à 20h. Il n'est pas trop tard pour venir profiter de la musique et passer un bon moment au festival. Et ce soir, sur la scène du théâtre, vous pourrez entendre Roman, November Ultra et Pierre Demar. Nous, on se donne rendez-vous demain à partir de 18h30 pour repasser encore un petit moment avec les artistes du festival. Demain sont programmés Monsieur Daco à partir de 19h et à 20h30, Poupi, Love Resval et Luigi PK. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de Calade. On va se quitter en musique. On a passé un chouette moment avec November Ultra. Je vous propose qu'on se quitte avec un des morceaux qu'on a évoqué longuement dans cette interview. Voici Soft and Tender sur Calade. Très bonne soirée, à tout bientôt. Ciao, ciao. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
There's a million things I want, but there's one thing that I need. It's to see your face tonight when I'm dreaming. There's a million things I want, but you're the one thing that I need. I gotta see your face tomorrow when I'm waking.
Wake up, my darling.
It takes a lot for me to say, but I want you to stay with me. With me. It takes a lot for me to say, but I want you to stay with me.
Joli en français.